Bonjour, nous sommes à Nice pour notre émission « Comment va ton âme ?» avec votre serviteur, le frère Paul-Marie. Et nous méditons, vous vous souvenez, hein, sur la prière continuelle, hein, sur le commandement du Seigneur, hein, prier sans cesse, qui permet à chaque fois de réorienter notre cœur et notre liberté, la direction de notre vie, hein, en fait, vers ce qui compte vraiment, hein, la béatitude éternelle. Hein, maintenant, hein, dit la Sainte Vierge, et à l'heure de notre mort. Hein, ce maintenant nous dirige, hein, non pas vers l'heure de notre mort, ce qui serait pénible et dramatique, hein, mais au contraire vers l'heure du passage qui nous permet d'aller vers la béatitude éternelle. Alors le Christ nous exhorte, hein, à prier sans cesse. Et la question, c'est de prier sans cesse, évidemment, aujourd'hui, hein, dans une société technicienne. Le Christ nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Il nous dit aussi, ne vous inquiétez pas du lendemain. Hein. Le Christ affirme une priorité, hein, c'est-à-dire un ordre entre nos différentes préoccupations, qui sont légitimes, mais il y a une préoccupation première, le royaume de Dieu. Et celui qui instaure cet ordre dans sa vie, le Christ lui fait une promesse, hein, il sera aidé par la providence divine, s'il se préoccupe de l'essentiel. Donc la prière, on l'avait déjà dit, hein, elle consiste à non pas à sacrifier tous nos désirs, mais à les mettre en ordre, hein, à leur donner des priorités. Et le désir de la béatitude éternelle, hein, doit passer en premier comme un but, hein, comme une fin, hein, vers laquelle nous tendons et qui nous permet d'intégrer tous les autres désirs. Il ne s'agit pas de les supprimer. Hein. Et celui qui instaure cet ordre de désir en lui, hein, eh bien le Christ lui fait une autre promesse. Hein. S'il frappe, on lui ouvrira, et s'il demande, il recevra. Et donc c'est très important au fond, hein, d'avoir un sentiment du cœur très bien disposé, tel que le désir de ce qui est vraiment premier, hein, va venir concrètement imprimer en nous, hein, un ordre dans tous nos autres désirs. Et j'allais dire, c'est un exercice continuel qu'il nous faut répéter, hein, comme les grands sportifs, hein, répéter, hein, ce désir, cette finalité. Alors pour qu'il y ait un ordre entre ces désirs, il faut deux choses au fond. Il ne faut pas se tromper sur le désir prioritaire et d'autre part que cette priorité n'exclut pas tous les autres désirs, mais les intègre en les organisant. Ça veut dire que concrètement, les différents désirs temporels qui surviennent dans notre vie quotidienne, il y en a beaucoup, hein. Ranger, manger, se laver, rencontrer, dialoguer, travailler, etc., etc. Ces désirs ne doivent pas prendre le pas, hein, sur le désir de la béatitude éternelle. Et là où cette inversion se produit, ben l'homme va prier du coup pour ce qui l'arrange. Il va pas prier en vue de la béatitude, hein, mais en vue des choses qui l'arrangent. Et il va demander du coup à Dieu, hein, d'être constamment à son service, et Dieu devient son domestique. Vous comprenez bien qu'à ce moment-là, Dieu va pas trop nous exaucer. Hein. C'est pas bon pour nous d'ailleurs, parce que ce qui compte, c'est, ce qui est bon pour nous, c'est Dieu. Alors si Dieu d'ailleurs ne se montre pas assez docile, hein, ben on va aller du côté de la superstition. Cela dit, il faut pas non plus ne pas demander à Dieu des choses, hein, de telle sorte qu'on n'oserait plus lui demander nos demandes du quotidien. Et si on faisait cela, on perdrait ce qui est au cœur au fond de notre de l'attitude religieuse, hein, c'est-à-dire à savoir d'ordonner toute notre vie à Dieu, y compris dans ce cas-là de plus banal, mondain ou superficiel. Hein. Nous l'avons dit, hein, que le nom de Dieu soit sanctifié. Et quand il nous aide sur les choses, eh bien, ça sanctifie son nom. Ça prouve qu'il est présent, qu'il est là, qu'il est provident, qu'il est bon avec nous. À condition, évidemment, que notre désir fondamental soit celui de la béatitude éternelle. Et ça, il faut le conscientiser, hein, et c'est pour ça que le Christ nous commande la prière continuelle. Vous voyez, ces deux conditions montrent qu'il y a deux manières d'empêcher la mise en ordre des désirs. La première, c'est l'angélisme, qui pense honorer la première condition à l'exclusion de tout le reste. Et cet angélisme va exiger du coup une prière détachée de toute préoccupation temporelle, une prière gratuite, désintéressée, centrée seulement sur Dieu et la vie éternelle, et pourchassant toute intrusion des désirs de la vie quotidienne sur le soupçon qui conduise à la superstition. Donc c'est vraiment être à l'exclusion de tout le reste. Et vous voyez bien qu'il y a un certain angélisme, parce que bien des gens disent, dès que je m'assois, moi, je pense à mille trucs, quoi, aux mille choses qui me préoccupent. Et dans cet angélisme, la prière, au fond, se replie dans la sphère de la spiritualité. L'angélisme, au fond, sépare ce désir de la fin des autres désirs. C'est comme si ces autres désirs n'existaient pas. Ben, c'est pas vrai. Vous voyez, ils sont en nous. Et tous les autres désirs, il les voit comme des impuretés, parce qu'il veut que la prière soit indemne de tout autre désir. Oui, mais c'est pas ce que Dieu nous demande, et puis parce que c'est pas possible. À cet angélisme, il y a ce qu'on appelle le sécularisme, qui refuse au fond au désir de la béatitude de réguler les autres désirs. Il y a même pour le sécularisme une porte étanche au fond entre l'éternel et le temporel, entre le spirituel et le matériel. Et il y a des soupçons envers les dévotions populaires. Mais voyez qu'au fond, ces deux s'accordent. On aura d'un côté la vie de prière et puis d'un côté la vie matérielle. Et puis les deux communiquent pas entre eux, parce qu'ils peuvent pas. Alors, ils ont pas le droit. Pour l'angélisme et pour le sécularisme, ils n'ont pas à le faire. Voilà, donc pour ce sécularisme, l'homme doit se débrouiller tout seul, au fond. Il ne doit pas faire intervenir Dieu dans sa vie temporelle. Ça concerne pas Dieu. Dieu n'est pas assez proche, pense-t-il, pour s'occuper de tout cela. Et que ce soit dans l'angélisme ou dans le sécularisme, au final, dans les affaires temporaires, l'homme va délaisser la prière pour s'occuper de ses intérêts. Et à aucun moment, il va rentrer dans cette prière continuelle. Alors évidemment, dans la société actuelle, ces deux formes, angélisme et sécularisme, vont trouver un soutien puissant. Dans notre société productiviste, technicienne, notre société, elle repose évidemment, et la radio ici n'en est que le témoin lointain. Elle est une vieille dame comparée à nos iPhones. Toujours est-il que notre société, elle repose quand même sur l'usage intensif d'instruments techniques. Et la réussite de ces instruments nous donne l'impression qu'elle peut satisfaire par elle-même tout notre agir. C'est-à-dire que elle lui fait croire que par la technique, l'homme va vraiment être cause. Alors, justement, l'homme, il peut être cause d'action de deux manières. D'abord, il y a la causalité directe, où l'on produit soi-même un effet. Mais on oublie la causalité indirecte, comme l'est la prière, qui appartient pourtant au domaine de la causalité humaine, puisque par elle, on n'obtient d'un autre que quelque chose arrive. Voyez. D'ailleurs, parfois on se félicite en disant, je vais t'aider, je vais appeler un tel, et je le connais, il va t'aider. Voyez, c'est une manière d'agir sur la personne. La société technicienne, vous voyez, elle nous fait croire qu'on va y arriver tout seul. Elle nous promet d'apporter une solution à tout problème grâce aux instruments techniques. Et au fond, par ces techniques même, il suffit de prier d'autres hommes, en passant des commandes ou en remplaçant des formulaires administratifs, qui font, nous font croire que la société va se charger de tous nos désirs temporels en offrant de les satisfaire soit directement, hein, soit par une forme de demande. Hein. Et au fond, à cette société technicienne, il semble qu'il n'y a plus que le désir de la béatitude éternelle qui lui échappe. Et vous voyez que l'angélisme alors, hein, et le sécularisme se trouvent ainsi confortés dans la séparation qu'ils prônent. Les désirs n'ont plus l'occasion d'être mis en ordre en vue de ce qui est premier. Alors l'obstacle va jouer à trois niveaux. Le premier, c'est que nos prières continuelles étaient réservées à nos semblables. Dieu semble à peu près le seul qu'il soit inutile de prier sans cesse. Pourquoi prier Dieu pour la pluie ou la récolte si l'on peut faire installer une irrigation ou acheter des engrais? Pourquoi prier Dieu pour être guéri alors qu'il y a tout près des hôpitaux remplis de spécialistes pour chaque maladie? Pourquoi prier Dieu quand on voyage si les progrès en sécurité le rendent quasiment sans risque? Pourquoi prier Dieu de réussir ses études, de trouver un travail, de mener à bien un projet, de faire prospérer une entreprise alors que des institutions sont chargées de s'en occuper? De même, pour éviter les péchés ou remettre sa vie sur de bons rails, ne faut-il pas plutôt se confier à un bon psychologue, à un coach ou à quelque autre conseiller? Le deuxième niveau est que Dieu apparaît bien moins réactif dans nos dispositifs humains. Car Dieu n'exauce les prières faites qu'avec insistance et dévotion, alors que dans la technique, une pression du doigt sur un bouton ou sur un écran nous donne un immédiatement ce que l'on désire. Insister, au fond, dans notre époque, hein, c'est le signe d'une machine qui dysfonctionne, d'un spécialiste qui n'est pas fiable ou d'une institution à réformer. Et du coup, évidemment, Dieu ne peut plus être le premier recours vers lequel on va se tourner instinctivement. Hein. Au fond, Dieu, c'est celui qu'on prie en dernier recours, lorsque tous les instruments faits pour nous obéir au doigt et à l'œil se sont révélés inefficaces. Et puis le troisième niveau, c'est l'assèchement des motifs temporels de prier, qui rend la religion, au fond, assez étrangère à notre vie quotidienne, sans portée concrète. Parce que si l'homme maîtrise tout ce qu'il y a à causer ici-bas, tout ce qu'il y a à maîtriser ici-bas, s'il ne reste à demander à Dieu que la béatitude éternelle, alors évidemment cette béatitude éternelle devient abstraite. Elle est une projection de nos désirs de bonheur et humilité qui s'avère indiscernable d'une illusion. Vous voyez, tout ça comporte des conséquences, mais nous les verrons juste après la pause.
Ooh.
Bonjour, nous sommes à Nice pour notre émission « Comment va ton âme ?» dans cette deuxième partie où nous parlons de la prière continuelle aujourd'hui et nous voyons les défauts de notre société technicienne et comment l'angélisme et le sécularisme ont marché main dans la main pour mettre des portes étanches entre notre vie de prière d'un côté et puis notre vie temporelle de l'autre, que la préoccupation de la béatitude éternelle est devenue seconde ou en dernière analyse réservée à l'action de Dieu seul et plus à la nôtre. Tout simplement parce que nous avons oublié ce conseil de notre Seigneur, cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. C'est-à-dire désirez d'abord la béatitude éternelle et ordonnez tous vos désirs en fonction de celle-ci. Et au fond, à l'intérieur des désirs temporels, nous avons oublié que Dieu pouvait venir à notre aide. Enfin, nous avons oublié. Pas tous, parce que, au contraire, on peut dire qu'il y a eu, dans la vie religieuse elle-même, une forme de prise de conscience de l'importance de l'Esprit Saint. Et beaucoup se réfèrent à l'Esprit Saint pour conduire leur vie, pour qu'ils infusent, parfois même de manière inconsciente, leurs décisions, et en tout cas que l'Esprit Saint soit là toujours pour les aider, pour leur donner la force, mais aussi pour leur donner une image ou simplement pour féconder les difficultés de leur vie. Et donc beaucoup prient sans cesse en se référant souvent à l'esprit. Évidemment, la question pour nous, elle est de savoir comment, dans le contexte de cette société technicienne, retrouver ou raffermir cette prière continuelle. D'abord, il n'y a pas d'incompatibilité radicale avec cette société actuelle. Il s'agit simplement d'adapter nos motifs de prier. L'homme est fait pour se servir d'instrument et il ne peut pas s'en passer. Donc, c'est pas la peine de penser qu'on va sortir de la société technicienne. Au fond, même l'instrument technique ne rend pas la prière superflue ou impossible, mais elle appelle au fond un surcroît de prière. D'abord, évidemment, rappelons-le, aucun instrument ne peut causer le but, la fin pour laquelle l'homme a été créé, et l'homme ne peut pas par ses propres forces atteindre le salut, ou la béatitude éternelle, il ne peut pas atteindre par ses propres forces Dieu. Et il ne peut pas davantage, évidemment, au moyen d'un instrument qui n'est au fond qu'un prolongement de lui-même. Vous pouvez faire des véhicules plus rapides ou plus écologiques, guérir plus de maladies, mettre de l'intelligence artificielle dans tous les produits, optimiser le management des organisations. Toutes ces prouesses ne procurent pas un instant de plus de béatitude éternelle que de frapper sur des silex pour allumer un feu ou d'inventer la roue. Donc, la raison de prier Dieu pour obtenir la béatitude ne disparaît pas avec la multiplication des instruments. Elle s'intensifie au contraire à cause du risque d'illusion de toute puissance que nous pouvons avoir, d'éblouissement ou d'enthousiasme pour le merveilleux que ces objets suscitent. Quand je parle de merveilleux, c'est sûr que, je sais pas si vous avez fait l'expérience, mais je me souviens des Fantomas avec Louis de Funès, on voyait Fantomas appuyer sur un bouton et tout apparaissait, il suffisait qu'il dise allumer la lumière et la lumière s'allumait dans les partout, et à l'époque des années 80, ça nous paraissait fou, et aujourd'hui c'est simple. Et cela pouvait nous émerveiller, même, j'allais dire, nous enivrer. Et c'est factice, évidemment, parce que c'est la promesse d'un bonheur tout à fait illusoire. Donc le seul remède évidemment à tout cela, c'est un culte rationnel qui comprend que seul Dieu peut combler un cœur. Deuxièmement, les instruments techniques vont aider l'homme à accomplir des tâches, évidemment. Ils peuvent même le remplacer avantageusement. Hein. Mais il y a une chose dont ces instruments techniques ne sont pas capables. Parce qu'ils sont des aides non humaines, hein, et parce que eux-mêmes ne sont pas faits pour la béatitude, et ils ne savent pas diriger une vie en vue de la béatitude. Au fond, un avion transporte n'importe qui, n'importe dans quelque lieu que ce soit, à l'exception du ciel. Et cette indifférence à la destination, à la finalité, fait toute son utilité d'instrument. Mais elle montre évidemment son imperfection en vue de la fin. Les instruments techniques ne nous indiquent pas la fin. C'est à nous de la choisir. C'est à nous de choisir ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui mérite vraiment le nom d'acte qui nous achemine vers la béatitude éternelle. C'est à nous de choisir ce qu'on doit rejeter. Et l'avion, lui, il est neutre. Hein. Il sert à transporter des bombes, hein, comme il sert à transporter des malades pour les sauver. Hein. Et au fond, l'avion et tout instrument technique n'aident en rien l'homme à choisir entre ces deux actions. Il vous donnera toujours les plusieurs possibilités. Et il vous dira pas pourquoi ceci est bien ou ceci est mal. Et au fond, c'est presque pire puisqu'il les met à égalité. Donc, au fond, plus l'homme utilise des instruments techniques, plus ces instruments techniques vont placer l'homme devant ses responsabilités. On a peur aujourd'hui de l'intelligence artificielle, mais au fond, c'est pas mal parce que ça oblige l'homme à réfléchir sur ce qu'est que la véritable intelligence et ce que c'est que véritablement d'être homme, ce qui le différencie de la machine et du coup lui font prendre conscience de sa dignité et sans doute du fait qu'il ressemble et qu'il est à l'image de Dieu et que la machine au fond n'est qu'un à l'image d'un homme mécanique, d'un homme qui n'en est pas vraiment un. Bien sûr, on peut penser qu'en le déchargeant de certaines tâches, hein, les instruments donnent une impression d'irresponsabilité à l'homme, alors qu'au contraire, il augmente cette responsabilité. On peut poster tous une vidéo sur Internet, hein, accessible à tous. Et donc, nous sommes de plus en plus responsables des idées qui sont les nôtres, hein, des idées que j'exprime et des idées que j'écoute. Et l'homme anonyme, au fond, ne l'est plus et son action va devenir de plus en plus importante. Hein. Parce qu'il accroît son pouvoir. Mais cet accroissement de pouvoir accroît le besoin de prier pour bien user de ce pouvoir. Pour que ce pouvoir ne conduise pas l'homme à sa perte. Donc, les progrès techniques, vous voyez, ne suppriment en rien les motifs temporel de prier. Il faut continuer à prier même quand on utilise un instrument technique. Au contraire, si j'ose dire. Est-ce qu'il est bon que j'achète ceci? Est-ce qu'il est bon que je poste cela? Quand je dis je poste sur Facebook, hein, que j'écrive ceci ou cela. Ordonner les désirs, hein, vaut toujours dans une société technique. Enfin, on peut dire que, pour conclure, hein, qu'un instrument n'est jamais neutre, hein, car nous sommes toujours obligés d'adapter notre activité à ce qu'il permet de faire, avec le danger de devenir esclave de son instrument. L'usage des écrans, évidemment, en offre un exemple criant. Et le recours intensif à ces instruments techniques va absorber notre attention, va les focaliser, hein, sur la portée de l'instrument technique, c'est-à-dire sur le fer, sur un fer de domination. Et on a une obsession de cette domination qui peut primer, hein, sur la beauté des formes, sur le sentiment de la beauté ou sur la noblesse des fins. Donc cette frénésie productiviste va le river à des travaux jugés efficaces, infaillibles, rapides, et l'homme ne s'occupe plus de chefs-d'œuvre. En tout cas, ces chefs-d'œuvre sont des instruments techniques. Ce sont des ponts, des tours, des avions, des ordinateurs, des chaînes de production, des films à effets spéciaux époustouflants. Mais le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, c'est quand, par l'art, par exemple, ou la poésie, ou l'art sacré, l'homme est tourné vers plus haut que lui-même. Quand notre esprit, dit saint Thomas, vise les choses temporelles pour se reposer en elles, il est rabaissé à leur niveau. Mais quand il les veut en vue d'obtenir la béatitude, il n'est pas rabaissé par elles, car c'est plutôt lui qui les porte vers le haut. Donc il faut continuer à maintenir l'homme tourné vers le ciel, pour conserver simplement le sens de sa dignité, de son agir libre. Il est urgent de prier Dieu sans cesse, de ramener nos désirs vers cette finalité et de les ramener tous nos désirs, les ordonner à cette finalité. Nous avons besoin de prier sans cesse, c'est-à-dire encore une fois, de prendre conscience de ce que dit saint Augustin, tu nous as fait pour toi Seigneur et mon cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. Et tous ces désirs qui sont les nôtres, là par exemple je vais éteindre le micro, m'habiller pour aller à la messe. Voilà, vous allez me dire c'est pour aller à la messe, donc évidemment. Mais imaginons que je range ma chambre, que je le fasse pour Dieu. Quoi que vous fassiez, que vous mangiez ou que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. À très bientôt.